Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Rhizome, l'émission de l'Institut Nomade. Ce soir, nous vous proposons une émission spéciale construite à partir d'interviews réalisées lors du festival Altérité, festival de films ethnographiques porté par la Fabrique du Patrimoine qui s'est déroulé à la bibliothèque Alexis de Tocqueville et le Cinéma Luxe du 8 au 10 avril 2017.
This is what I did while you were away, baby. Now, aren't you glad to be back?
Le paysage sonore de ce soir est composé de fragments d'interviews faites en direct pendant le festival et un éclairage sur la discipline de l'ethnologie grâce à l'interview de Karine Lepetit, coordinatrice du festival, des interventions de l'ethnologue Jeanne Favre-Saada, ainsi que de la lecture de son texte « Désorcelé » qui analyse son terrain à propos de la sorcellerie dans le bocage. La première question, c'est qu'est-ce qui vous amène au festival ?
D'une façon générale, j'ai un regard intéressé sur le festival. Après, j'ai fait mon picore suivant mes intérêts. Et effectivement, le film de cet après-midi, que j'avais déjà vu il y a bien longtemps, j'ai sauté sur l'occasion de le revoir, plus la présence de la dame, là, qu'on, le nom m'échappe à l'instant, mais enfin, qui...
Jean-Pierre Favre-Saada.
Voilà.
Deux choses, on a eu membre du master patrimoine à l'université de Caen, on a eu cours avec Karine Lepetit et avec Sophie Potier, donc on a eu connaissance du festival, on trouvait ça super intéressant, surtout avec notre cours sur l'ethnographie, et puis on a aussi Chloé qui est stagiaire ici et qui nous a bien vendu les différents films, et puis bon bah voilà, ça fait deux facteurs qui font qu'on avait plutôt envie de venir. On pouvait pas venir les autres jours parce qu'on était en stage nous aussi, et donc là on s'est dit que le thème était super intéressant. Et voilà, on est venu, je pense que c'est...
Qu'est-ce qui vous a amené ici, au festival ?
C'est-à-dire que je suivais déjà le festival ethnographique les années précédentes et qui s'était arrêté. On déplorait son arrêt depuis 2 ans. Donc là, on a sauté sur l'occasion quand on a vu que c'était à nouveau le festival ethnographique. Mais je faisais la réflexion tout à l'heure que c'était beaucoup mieux que précédemment.
Ça faisait effectivement 19 ans que la Semaine du cinéma ethno existait, était présentée au Luxe chaque année en novembre. Et quand ça s'est interrompu, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'en sont émues, parce que le festival a eu un certain succès et des spectateurs assidus. Donc sa disparition a provoqué un vide qui n'a pas été comblé. Et puis moi je travaillais de façon assez périphérique sur cette manifestation-là. Je regardais certains films, j'orientais certains axes thématiques, mais ça m'intéressait d'avoir un rôle plus investi. Et ça a été possible. Donc on a d'abord fait un point avec le Luxe, donc le partenaire qui était le même partenaire sur les 19 années de la Semaine du cinéma ethno. Et ce sont eux qui ont émis le souhait d'avoir un véritable festival, c'est-à-dire de proposer une densité de films ou de rencontres qui permettent à des gens de plus loin, en fait, que ça concerne véritablement, que c'est une dimension véritablement régionale, que des gens puissent se déplacer pour les 3 jours, alors qu'avant c'était uniquement les soirées. Donc en fait, c'était plus un public très, très local. Et de fait, on l'a vérifié grâce à vous, grâce aux entretiens des salariés de la Fabrique et de l'Institut Nomade. Il y a des gens qui venaient de Domfront, c'est pas très loin, mais quand même, de Domfront. Il y a des gens de Montpellier qui sont restés pendant toute la durée du festival, des Parisiens. Enfin, tout ça, j'étais assez étonnée finalement que dès le départ, ça fonctionne, quoi.
Et qu'est-ce qui vous intéresse du coup dans le cinéma ethnographique, vous personnellement, qu'est-ce que vous venez chercher quand vous venez
Ben oui, la connaissance de beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, moi, je vois, pourtant, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était la guerre et comment la résistance, la Shoah. Et j'avais pas connaissance de sujets comme celui qui a été abordé aujourd'hui.
Pour ma part, je connaissais pas du tout l'ethnographie. On l'a découvert avec Karine Le Petit, notamment, avec le témoignage oral et l'enquête sur le terrain. Et là, du coup, ça fait une possibilité de pouvoir aller encore plus loin, de voir des films ethnographiques. On est beaucoup en rapport avec l'histoire, avec les musées aussi. Donc là, le fait de mettre justement le témoignage au cœur de l'histoire, enfin, et inversement, moi, je trouvais vraiment que l'après-midi me tentait vraiment parce qu'il y avait cette dimension, voilà, Seconde Guerre mondiale, collaboration. On l'a vu en cours, mais toujours la collaboration, c'est pas bien, etc. Et d'ailleurs, il y a des questions bien plus importantes... Et je trouve que ce témoignage-là, enfin ce film-là, c'est une belle approche pour montrer aussi la complexité et l'ambivalence des personnages pendant la guerre et puis comment on le met aujourd'hui à l'écran. Et puis voilà.
Bah, d'une façon générale, moi je suis sur les sciences humaines, vous voyez, c'est les gens qui m'intéressent et par quel bout je les prenne, ça m'est un peu égal. C'est-à-dire, je ne suis pas universitaire, j'essaye de saisir la réalité par la sociologie, par l'histoire, l'ethnologie ou l'anthropologie, vous voyez.
La première envie, c'était d'avoir Jeanne Favre-Saada, donc de vraiment avoir un marqueur de la discipline ethnographique, que ce soit bien identifié, pas comme un festival de documentaires généralistes, mais que la discipline soit très présente. Avoir quelqu'un qui est une grande pointure, enfin c'est vraiment une grande dame de l'ethno et qui en plus a travaillé sur notre territoire. Donc la rencontre avec Jeanne Favre-Saada s'étant passée de façon positive et elle avait envie elle aussi de venir, on a essayé dans un premier temps de trouver une programmation qui corresponde à ces problématiques. Elle nous avait mis en garde en disant qu'elle avait des rapports très conflictuels avec le cinéma puisqu'elle a gagné des procès contre beaucoup de réalisateurs qui ont tenté de mettre en image ses travaux et parfois de les interpréter. Enfin, voilà, elle est rentrée en conflit avec de nombreux réalisateurs, dont celui de Martin Guerre, j'ai plus son nom. Enfin, c'est des gens quand même assez... Elle aurait eu l'opportunité finalement de faire connaître son travail, mais elle a le sentiment, et ce que je comprends tout à fait, que d'une part, elle met beaucoup en avant le fait que le terrain ne lui appartient pas, et d'autre part, que cette interprétation était nécessairement simpliste par rapport à toute l'analyse qu'elle a pu en faire. Elle a travaillé plusieurs années sur le terrain, elle a analysé mis plus de temps encore à analyser quand elle est revenue sur ses notes de terrain pour écrire des sorcelets et que rendre compte de cela à travers un film de fiction d'une heure et demie, c'était trop simpliste et c'était pas ce qu'elle souhaitait. Et on a cherché d'autres films sur la sorcellerie et à chaque fois on avait le mauvais scénario, la musique de suspense, le côté très... vraiment la peur, les traditions qui, avec lesquelles on aime se faire peur, quoi. Donc on a cherché et on n'a pas trouvé, sachant que la sorcellerie africaine ne correspond pas du tout à l'illustration du travail de Jeanne Favre-Saada, c'est pas du tout la même approche. Donc peu à peu on a glissé, on a commencé à regarder des films sur la ruralité, conflits et ruralité, et puis en regardant les films, puisqu'on part de cette matière-là, on est arrivé vers cette thématique de la réconciliation, ce qui était pas forcément fléché, puisque elle avait choisi pour appuyer son propos le film Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, mon frère, ma soeur. Donc la réconciliation n'a pas lieu. Elle avait participé aux travaux avec Foucault pour l'édition des mémoires de Pierre Rivière. Et elle avait, à l'époque où le film a été tourné, Elle raconte qu'elle l'avait détesté, puisqu'elle était trop proche en fait de son terrain. Elle n'avait pas la distance nécessaire pour le voir tel qu'il était, le film. Et forcément, il y a toute l'épaisseur de son analyse ne pouvait pas intervenir. Et aujourd'hui, plus elle le voit, plus elle trouve qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Cette distance est parfois nécessaire. Et donc, c'est elle qui a souhaité le programmer, le mettre en avant. Et elle était ravie donc de revenir sur le territoire du Bocage, accompagnée de ce film.
La première image du film montre des terres encloses de barrières et de haies. La dernière montre un homme et une femme séparés par une clôture, un papier à la main, sans doute un contrat. Deux êtres enfermés chacun dans sa propriété. Tout au long du film, l'image et les péripéties de l'action montrent les passions que suscitent ces clôtures entre les terres, entre les sexes, et les circulations incessantes que génèrent leur mise en cause. Donc ce film rapporte une tragédie vraie qui s'origine dans le droit rural et familial du XIXe siècle, dans laquelle des sujets de ce droit, ici des paysans, des gens de peu, vont être saisis de forces qui les dépassent et mettre en action quelque chose comme une tragédie antique. Et le travail d'Alio sur l'image impose l'évidence sensible de cette tragédie et son inéluctable progression. L'action est déclenchée, puis elle est constamment relancée par les initiatives furieuses de Victoire, Brion, la mère, épouse Rivière, jusqu'au massacre final. Car elle se comporte tout au long du film comme si elle était assujettie au seul droit de la propriété qui fait de tous les individus des êtres humains égaux en droit, qu'il soit homme ou femme. Et elle ignore avec obstination le droit familial. Et c'est ça qui m'a trompé, qui sans doute a trompé Foucault et a trompé aussi Alio. C'est-à-dire le droit familial, normalement, contraint absolument Victoire Brion à cohabiter avec son époux, à élever ses enfants, à vivre là-bas chez lui si c'est là-bas qu'ils ont décidé de vivre. Et comme c'est une épouse de paysan, de ce fait, elle doit faire son travail d'épouse de paysan dans l'exploitation du mari à la factrice, qu'elle ne fait pas, qu'elle ne fait jamais. Donc d'une part, les deux époux sont contraints à cohabiter, la mère est contrainte de vivre avec les enfants et les élever, et d'autre part, le droit familial, là c'est plus sensible dans le film, le droit familial fait de l'époux le chef de la famille et l'unique gestionnaire de tous les biens du ménage, donc l'administrateur des biens communs du ménage et celui des biens propres de l'époux, de l'héritage de sa femme. Car ce droit refuse toute autonomie aux femmes.
Je suis heureusement surpris, je m'en souvenais assez peu d'une certaine façon, et puis de toute façon, moi j'ai changé, même si le film restait le même. Et donc, ça m'a vraiment emballé. Hein. Et son discours, là, j'en discutais justement avec la dame à la sortie, me pose question, y compris par rapport à la situation d'aujourd'hui. On parle des femmes, la situation des femmes en Iran, en Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes phénomènes de contournement de la coutume, de contournement de la loi, hein. Et on le voit à travers du cinéma, quelquefois à travers de reportages où les femmes, quelle que soit l'oppression, on va dire pour aller vite, trouve le moyen de biaiser, de faire des choses qui leur rend la vie possible, en fait.
C'est une des grands maîtres, surtout qu'elle a été enseignante à Nanterre. Moi, j'ai fait mes études à Nanterre. Donc, c'est un des hauts lieux où on parle de Jeanne Favre-Saada, non pas en termes polémiques, mais au contraire, comme quelqu'un qui a fait véritablement avancer l'ethnographie, la discipline, et avec toute la difficulté que ça implique. C'est effectivement une implication très très forte, jusqu'à compliqué sa vie familiale et la sienne, jusqu'à basculer, jusqu'à ressentir la peur, jusqu'à avoir accepté de jouer le rôle qu'on lui attribuait, soit d'ensorceler, soit de désorceleuse. Et ça, des gens qui n'ont pas vécu d'expérience de terrain ont pu lui reprocher une absence de regard froid et scientifique. Or, ce qu'elle décrit véritablement, c'est que jamais elle aurait pu accéder à ce savoir si elle n'avait pas accepté de jouer ce rôle, puisque la parole, la parole tue dans le cadre de la sorcellerie. Et accepter de parler, c'est jamais neutre. Donc qu'elle écoute les gens ou qu'elle-même en parle, elle devait nécessairement tenir un rôle.
Mon instrument de travail, ça n'a pas été des questionnaires ou toutes ces choses qu'on croit qu'il faut faire dans les sciences sociales. C'était un journal de terrain très précis de toutes mes rencontres. Mais dans un détail, d'ailleurs, j'aurais pas pu après coup raconter cette scène si j'avais pas eu un compte rendu. J'ai un compte rendu de peut-être 60 pages sur ces 2 heures que j'ai passées avec eux. Et ce serait impossible sans ça. Et j'avais pris l'habitude de noter aussi, par exemple, si un chien se met à aboyer, si la grand-mère se lève tout d'un coup et s'en va tisonner le feu. Tout événement qui se produisait quand j'étais en présence d'une situation où de la sorcellerie était en jeu, et de noter aussi ce que je faisais, ce qui est assez accablant après coup, faut pouvoir se relire.
Telle que je l'ai apprise, en tout cas, puisqu'apparemment les choses changent, on est de moins en moins exigeants, justement, il y a de moins en moins de personnes qui vont s'investir, telle que l'a fait Jeanne Perret-Saada, en faisant déménager sa famille. Ils ont habité en famille dans le bocage, à une distance raisonnable du terrain, pour quand même pouvoir avoir une petite respiration. Donc moi, on m'a appris qu'il y avait cette période de l'ethnographie, c'est-à-dire la période de l'observation, qui est une période d'immersion, de préférence solitaire, puisqu'il faut accepter d'être déstabilisé. En général, même si on travaille sur sa propre société par la suite, on apprend aussi l'observation et l'ethnographie en partant sur des terrains plus exotiques, plus lointains, où on réalise, quand tu partages pas la même langue, par exemple, ton attention se porte davantage sur les gestes, sur les postures, sur tu observes des choses différentes, en fait. Et surtout, tu prends conscience que finalement, ta société est une parmi d'autres. Et ça, c'est essentiel pour l'ethnologie, puisque le sujet de l'ethnologie, c'est l'altérité. C'est vraiment... c'est pas une étude de soi, c'est l'étude des autres. Mais à travers les autres, évidemment, on se découvre aussi sa propre culture, bien sûr.
Voilà, c'est ça qui vous donne la différence entre... Je ne sais pas, l'ethnographie comme discipline, l'ethnologie ou les sciences sociales comme discipline de bureau, où on doit tout savoir, et même si ça n'a aucun sens. Et l'ethnographie comme je l'ai pratiquée, et comme aussi, par exemple, mon grand ancêtre, qui est un Anglais, qui s'appelle Evans Pritchard, qui a travaillé sur l'année de ma naissance, qui était donc il y a 82,4 ans, a travaillé sur la sorcellerie chez les Azandés du côté du Soudan. Lui disait, faire de l'anthropologie, c'est se planter à un endroit et voir qu'est-ce qui intéresse les gens. Pas partir avec un projet de recherche et des hypothèses comme on fait faire à tous les étudiants maintenant. Il faut qu'ils aient déjà des hypothèses sur ce qu'ils vont trouver. Non seulement ils doivent savoir ce qu'ils vont trouver, mais avoir des hypothèses sur comment ça fonctionne. Et Evans Pritchard disait, c'est aller être ethnographe, c'est aller se planter dans un endroit et voir à quoi les gens sont intéressés. Et après, alors il dit, chez les Azandés, ils s'intéressaient à ça, donc j'ai dû acheter des vaches, il a eu une vie différente, totalement différente dans chacun de ces terrains. Et moi, j'ai toujours fonctionner comme ça.
Oui, donc alors.
Et à l'époque, vous avez la même interprétation ou la même réaction ?
Ah, moi, écoutez, à cette époque-là, je travaillais à
Bah oui, donc on est dans ce secteur-là. On a suivi et la polémique et comment elle était intégrée dans le milieu agricole.
J'ai moins suivi ça parce que je suis partie à cette époque-là.
Ah oui.
Mais entre 64 et 68, j'étais assistante sociale.
Oui, alors donc vous étiez. Oui, d'accord, elle était. Parce qu'elle était à Beaucé.
Absolument.
Donc Beaucé, c'est dans le secteur. Dans ces secteurs-là.
Moi, j'ai entendu parler de la fameuse dame blonde.
Oui,
avec des échos extraordinaires. À l'intérieur
des
familles.
Juste une petite information pour le covoiturage. On avait mis une petite annonce sur Facebook pour les personnes intéressées. Pour
une culture universitaire, etc. Et moi, ce qui me dérange dans ce qu'elle dit, c'est son intellectualisation. Des gens que des actions des gens sans avoir ce recul et cette interprétation intellectuelle. Moi, quand elle analyse la structure familiale de chef d'entreprise dans le milieu agricole, c'est pas du tout comme ça.
Vous parlez de à cette époque-là ou de maintenant?
Non, moi je suis issue de ce milieu. Je suis 3 générations, 4 générations. Et ça a toujours été la ferme qui a été transmise de père en fils, etc.
Le thème du festival Altéritel, c'est la réconciliation. Je veux savoir ce que ça évoquait comme pour vous, ce mot, réconciliation.
Ben, vous le savez, c'est ce qui va avec l'altérité, en fait, dans l'autre appareil aussi. C'est essentiel, c'est une interpellation essentielle dans le monde en général, et peut-être en plus dans ce qu'on a aujourd'hui, de l'articulation entre le jeu, le nous, effectivement, on parle de réconciliation, parce que c'est derrière réconciliation, il y a reconcilier, mais il y a même simplement vivre ensemble.
Si je parle uniquement de ce qu'on a vu aujourd'hui, je dirais que c'est la réconciliation avec sa famille, et des visions qu'on peut avoir de sa famille. Après, j'ai pas eu la chance d'assister aux autres journées, mais on est clairement dans. Effectivement, il y a beaucoup de conflits ce soir, c'est sur le Rwanda, donc c'est tout aussi intéressant. Le thème de réconciliation, je pense que c'est vraiment un débat qui est assez complexe. J'ai pas vraiment de réponse magique à y faire, mais c'est pas utopiste, mais.
Et à votre avis, avec quoi ou qui faudrait-il se réconcilier aujourd'hui ?
Bah, vous savez, moi je suis de culture marxiste, on va dire. Donc il y a à prendre le bout par des bouts qui sont de tout bêtement les causes de l'inverse de la conciliation. C'est les questions des inégalités, à la fois sur le plan économique, parce que c'est ce qui apparaît le plus facile, mais le plus évident à régler. Et puis effectivement derrière. Autour et en même temps tout ce qui s'inscrit dans les inégalités, dans les démarches contre l'émancipation. On était déjà dedans tout à l'heure.
Parce que l'exemple que prenait Jeanne Fabre-Saada sur le monde agricole, je pense qu'on peut l'avoir dans le monde du travail partout. Sur la question de la rivalité avec les autres, la pénurie des emplois, la mise en concurrence des individus. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'on a réconcilier, ou en tout cas à aplanir, c'est la question de la violence. Donc à la rendre possible, symbolique et pas brutale comme ça. Donc je trouve que ce qu'elle disait là était extrêmement actuel. Enfin moi en tout cas par rapport aux situations de travail que je connais, les miennes ou celles des autres, hein, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'elle a dit.
Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a besoin de faire une réconciliation, ou en tout cas de mettre les choses à plat. Je pense à la guerre d'Algérie, qui est encore un sujet énormément tabou en France, et même les historiens ont du mal à les chercher. Je pense que là aussi, il y aurait sujet à faire peut-être un film aussi sur ce thème qui est très très compliqué et qui ressort encore dans les débats politiques. Voilà, comme toute la colonisation, c'est vraiment tabou et c'est ressorti là pendant les présidentielles. Mais
Et pour vous, avec quoi ou avec qui faudrait se réconcilier aujourd'hui?
Ah, avec qui? Avec soi-même déjà.